Merci d'être ici aujourd'hui. Je vais introduire le premier intervenant. J'aimerais vous remercier d'être ici à présent. Félix Gary est le vice-président de l'IANA. Edith, si vous voulez bien commencer. Merci beaucoup d'être me recevoir ici. Je suis désolée. Je ne parle pas espagnol. Ce n'est pas une langue que j'ai. Je sais juste dire cómo está et muchas gracias. Je suis désolée de devoir parler en anglais. Nous avons envoyé nos diapos un peu tard. Donc, je vais parler un peu des diapositives pendant que Gisela essaie de les afficher. J'aimerais vous introduire. Je dois parler plus fort, d'accord? Ça va mieux? Donc, je vais déplacer les... Ah, voici les diapositives, c'est magnifique. Donc, nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Est-ce qu'elle le fait ou moi? Vous pouvez? C'est moi ou vous? Donc, il y a trois sujets que j'aimerais couvrir aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de ce que vous en savez de l'IANA. J'imagine que vous savez ce que nous faisons. Et c'est les paramètres de protocole pour l'ITF, l'adressage IP et les nombres autonomes que nous travaillons avec les RAR et surtout l'ATNIC pour cette partie du monde. Et nous s'occupons également de la gestion des changements dans la zone racine, mais j'aimerais également vous parler des améliorations continues que nous avons fait avec nos procédures et nos processus dans le département IANA, d'autres services que nous offrons en dehors du contrat que nous avons avec le département du commerce des États-Unis, parce que nous offrons d'autres services et des liens vers des statistiques sur nos travaux que vous pouvez consulter si vous le désirez. Nous pouvons passer au prochain. Je ne sais pas si les diapositives bougent ou non. Donc, en parlant des progressions, des améliorations progressives, nous sommes engagés dans un programme intitulé IFQM. Donc, il y en a un projet qui s'appelait l'excellence commerciale et ce projet est basé sur l'IFQM. C'est un standard européen pour la gestion de qualité et chaque année nous ciblons les améliorations dans les services que nous offrons et les mesures que nous offrons. Et en fin de l'année, nous avons ce qu'on appelle une auto-évaluation. C'est bien défini et bien documenté dans ce processus qu'on appelle IFQM. Et nous avons eu de grandes améliorations et nous avons eu une amélioration de 50% par rapport à la notation de l'année dernière. Je n'imagine pas que cela va se passer souvent, mais la raison pour laquelle il y a eu cette grande amélioration, c'est que nous avons passé en revue toute notre documentation pour les politiques que nous mettons en œuvre et les politiques et les processus. Et nous avons dit que certains sont des textes et d'autres sont sous forme en ligne et d'autres sont écrits à la main, des notes écrites à la main. Et d'autres sont dans la tête des gens, donc on a trouvé un flot de processus formalisés. Nous avons tout documenté. Plus de 50% de nos processus dans ce modèle de processus commun. Et maintenant, nous faisons ça pour l'autre moitié cette année. Nous essayons également de consulter nos indicateurs de performance clés. Donc, nous sommes d'accord, des ententes pour donner des renseignements de l'ITF et ce sont des rapports qui disent ce que nous faisons, mais nous voulions voir quels étaient nos indicateurs de performance clés pour les services que nous offrons. Par exemple, combien de temps ça nous prend pour répondre lorsque nous avons une requête. Je m'entends. Pas grave. J'ai pas Nous travaillons donc, nous avons défini beaucoup de ceci et maintenant nous devons établir des étalons et nous voulons dire ce que, quelles améliorations nous voulons observer. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour démontrer que nous avons fait beaucoup de documentation de processus standard et c'est disponible au fur et à mesure que nous faisons entrer de nouveaux personnels. Ils n'ont pas besoin d'entendre l'historique de ce qu'ils devront faire, mais ils ont une feuille de route et ils peuvent suivre les étapes pour gérer une délégation, une redélégation, l'assignation d'une adresse IP, l'inscription d'un nouveau protocole pour l'IDF. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et l'une des autres activités dans le modèle IFQM est de dire, OK, vous avez fait beaucoup de choses pour améliorer vos processus internes. Vous avez trouvé des mesures, des paramètres de clés. Mais que pensent vraiment vos clients de vous? Est-ce qu'ils aiment ce que vous faites? Est-ce que la perception des services est la même que celle que vous avez de vos services? Donc, nous allons trouver un sondage et nous allons l'envoyer à nos base de groupe constitutif de GTLD, de RAR, les registres régionaux et les ITF et les IB qui sont nos récipiendaires principaux, les destinataires principaux de nos services et nous allons analyser et faire des améliorations en fonction de leur rétroaction. Dans le cadre de l'amélioration des processus, nous avons également réévalué les temps, les modèles utilisés par les gens avec le temps. Ils se sont basés sur les commentaires de la communauté. Nous avons un modèle de requête IPv4 et IPv6. Maintenant, nous utilisons un seul modèle de requête. Nous avons assigné le dernier bloc d'IPv5 dans son pool libre. Donc, c'est bien d'avoir un seul formulaire parce que nous n'avons pas de IPv4 à distribuer pour le moment. Cependant, le ASO, prévoit de présenter cette semaine une politique globale qui permettra aux différents registres Internet de retourner des blocs d'adresses IPv4 qu'ils veulent mettre dans le pool commun qui permettra à l'IANA de distribuer ceci aux divers registres Internet en fonction des besoins. Donc, cette proposition sera proposée à l'ASO à un moment donné pendant cette semaine. Prochaine diapositive. Donc, sécurité, continuité des services est également très important pour notre département, le département IANA. Donc, nous avons un plan de sécurité et nous le réexaminons chaque année. Donc, nous venons de publier internellement notre quatrième plan de sécurité annuel. Et en ce qui concerne la continuité des services, nous avons décidé que nous avions besoin l'année dernière de confirmer que si les serveurs ou n'importe quelle autre base de données que nous avons où nous gardons les informations devenait hors service, alors nous aurions une redondance dans une autre partie, dans un autre endroit géographique. Donc, nous avons un exercice de continuité il y a un an et demi de cela et nous sommes dans le processus de programmer un second. Et notre cible pour pouvoir ramener tous nos services en ligne est de 4 heures. Cela peut sembler long, mais on a pensé que nous commencerions par là et pour s'assurer que cela soit atteignable et ensuite on essaierait d'améliorer avec le temps. Donc, la prochaine diapositive est sur le DNSSEC, la sécurité du nom de domaine. Vous avez déjà entendu dire que la racine a été signée un an et demi auparavant. Et lorsque nous l'avons fait, nous avons mis sur pied un système selon lequel nous avons des cérémonies d'échange de clés chaque 3 mois. Et là, ce sont des représentants du monde entier qui nous rejoignent dans l'un des 2 endroits, soit à Los Angeles, en Californie, ou à Culpeper en Virginie, et nous avons une cérémonie de clés où nous changeons les clés. Nous avons la cérémonie 7 et 8 qui sont bien déroulées, pas cette année, mais une en fin de 2011 et une au début de 2012. Et ces cérémonies sont diffusées en direct. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller à ce site web que j'ai connecté ici et vous pouvez le voir au fur et à mesure que ça déroule. C'est comme on voyait, voilà, la peinture séchée. C'est 4 heures très longues, mais ça ne se passe pas très longtemps. Rien ne se passe, mais vous pouvez vous connecter et regarder la cérémonie des clés, de changement de clés en direct. Des résultats de la sécurité d'NSSEC, on voulait s'assurer que cela soit audité et que toutes les exigences de sécurité soient satisfaites pour assurer la stabilité et la sécurité de la racine. Pour cela, nous avons contracté une firme d'audit. Elle nous a donné une certification AssistTrust. AssistTrust, on vient de renouveler au cours de la dernière cérémonie. Donc, nous sommes très heureux de dire que nous avons passé un audit 2 ans de suite qui nous dit que nous avons un système très sûr pour échanger, faire le roulement des clés. Donc, parmi les autres activités du département IANA, ils ne sont pas sous le contrat, comme je l'ai dit, avec le département de commerce des États-Unis. Ce sont des activités que nous faisons dans le cadre de nos responsabilités quotidiennes vis-à-vis d'autres organisations. Donc, les heures, les fuseaux horaires de base de données, est-ce que vous les connaissez? L'horloge est sur votre PC ne synchroniserait pas. Si vous n'avez pas de base de données de fuseau horaire, votre cellulaire ne saurait pas que vous seriez dans un autre fuseau horaire. La base de données des fuseaux horaires suit les différentes bases de fuseaux horaires et les pays et les changements que font les différentes entités, les changements qu'ils font à l'heure. Donc, cela a été géré pendant cette décennie par des volontaires. Parmi les volontaires, certains volontaires travaillaient pour l'Institut de la santé. Leur était un hobby, ce n'était pas un boulot, un travail, un emploi. Et ces volontaires qui géraient cela depuis des dizaines d'années ont décidé qu'il est temps de prendre leur retraite et ils devaient trouver une autre manière que le service qu'ils maintenaient depuis si longtemps. Que toute la technologie ou la plupart sur lesquelles dépend notre technologie, que cela soit préservé. Donc, ils ont fait une requête à l'ITF et l'ITF a dit nous avons un mémorandum de compréhension d'entente avec ICANN. Et dans cette entente avec ICANN, le département IANA gère tous les registres de protocoles pour nous. Donc, nous pourrions vous demander de gérer la base de données des fuseaux horaires dans le cadre de cette entente. Donc, nous travaillons sur cette entente pour le faire. Lorsque les deux volontaires qui géraient cette base, il y a eu une poursuite, un procès intenté contre ces deux personnes. Comme c'était un hobby, ils n'avaient pas d'avocat. Donc, l'ITF nous a demandé si on pouvait prendre la base de données des fuseaux horaires pendant que nous occupions les accords par la suite et nous le faisons comme service à la communauté. Et nous avons RFC à publier prochainement en disant qu'on fait ça au nom de cette organisation. Et l'organisation qui a mené le procès contre les bénévoles a retiré le procès donc il y a 2 ou 3 semaines. Donc, c'est assez récent. Heureusement, c'était positif pour eux et pour la base de fuseaux horaires. Elle est hébergée quelque part. Et une autre activité que le département IANA fait, c'est que nous n'avons pas le lead dessus, mais nous participons parce qu'il y a des implications techniques pour le DNS et c'est le projet sur les problèmes de variantes IDN. Il y a 6 équipes de variantes IDN avec composées de personnes de différentes régions et avec d'autres scripts, par exemple cyrillique, le chinois. Je ne peux pas utiliser. Il y a Denvargui, un script indien. Désolée si j'ai mal prononcé, mais les 6 équipes se rencontrent. Et elles présentent un rapport cette semaine sur leur interprétation et les problèmes se portant aux variantes IDN. Est-ce que vous savez ce que je veux dire quand je dis variante IDN? Si vous savez ce que c'est, levez la main. Ah, trois? OK. Je vais vous dire que les variantes IDN, c'est lorsque vous avez, disons en chinois, vous avez deux caractères qui sont très différents, mais le code sous-jacent lu par le DNS est le même. Donc, il y a des variantes. Donc, cela peut être induire en erreur le DNS et qui pense que qu'il va en deux différents endroits alors qu'il n'y en a qu'un. La même chose pour le script, mais il y a différents Unicode. Donc, ce sont des variantes. Et cette question, au moment de l'introduction de domaine internationalisé, quand nous introduisons des scripts différents, comment s'assurer que l'usager ne va pas aux mêmes endroits et que le DNS n'ait pas de copie? Donc, c'est très intéressant et très spécialisé par rapport à la technologie et la linguistique. Je ne suis pas experte, mais c'est une situation difficile. Donc, la prochaine diapositive, ce sont des indications vers des pages web. Si vous voulez apprendre davantage sur les questions de variantes, comme je l'ai dit, il y aura une présentation publique sur ces rapports lors de la réunion ICANN, de cette réunion ICANN. Et finalement, quelques notes sur les statistiques. Ce que j'ai devant vous, c'est une carte là où les top, les CCTLD ont déployé DNSSEC. Donc, c'est vraiment mis au niveau géographique au lieu de. Donc, il y a en bas de la page, il y a un URL. Donc, si vous voulez aller à ce URL, vous pouvez amener et cliquer sur le plan et voir quels CCTLD ont déployé DNSSEC. Et si nous passons à la prochaine diapositive, ça c'est sur l'adressage IPv6. J'imagine que vous savez que l'IPv6 est l'avenir. Nous avons besoin des milliards et que cela nous permet d'avoir, afin d'avoir la croissance économique, la croissance des services pour nous tous. Ici, ce n'est que le pourcentage du site web de IANA, le pourcentage de circulation qui obtient l'IPv6, et ça va de janvier à décembre 2011. Avant, on en avait davantage. On avait davantage de requêtes, mais je ne sais pas pourquoi c'est plat maintenant, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Au début de l'année, c'était en préparation de la journée IP25 sponsorisée par l'ISOC et Google et Facebook et bien d'autres vendeurs. Et on pense que les gens testaient et ça se préparaient pour la journée IPv6. Lorsqu'ils ont eu le IPv6, ils ont vu que cela ne tombait pas en panne. Ils ont arrêté de l'utiliser. Ils sont retournés à leurs habitudes. Mais on a calculé la circulation pour l'IPv6 sur le site de IANA. Et la dernière diapositive, à gauche, en rouge, j'ai un lien qui vous orientera vers un site web où nous collectons beaucoup de statistiques. Je sais que vous avez besoin un peu d'une loupe pour voir ce qui est écrit en bleu, mais vous pouvez trouver des informations sur différents TLD. Vous pouvez trouver des informations sur le BGP peering entre les serveurs DNS et vous pouvez voir des données sur les registres régionaux et la location d'adresse. Ce n'est qu'un échantillonnage, mais si vous êtes intéressé aux statistiques, comment les réseaux fonctionnent de perspective ICANN, nous avons mis sur pied cette page et vous pouvez la consulter finalement. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce que nous faisons dernièrement et j'aimerais bien répondre à vos questions si vous en avez.
Muchas gracias.
Oh, merci beaucoup. Nous sommes donc ouverts à des questions. Si, Javier. Monsieur Loriano, je m'appelle Johnny Loriano. J'ai un conseil. On suppose que, du point de vue de l'utilisateur, qui utilise donc l'Internet, et ses recours est rationnel à la quantité des IP qui sont générés, ils sont générés à travers l'IPv4. Et c'est donc un recours limité. Donc, regarde à l'IPv6. Mon écouteur ne fonctionne pas bien, donc si vous voulez bien répéter la question, j'ai mal entendu. Merci. Alors, l'Internet, du point de vue donc des utilisateurs, c'est limité, c'est un recours limité. Ces limitations parce qu'il y a une quantité limitée de IPv4, ce recours donc se multiplie par millions de fois. Donc, il y a une sorte d'influence et des possibilités majeures des IP, une relation du coût au coût, à l'accès, ou le domaine. Alors, j'essaie de répéter la question pour m'assurer que j'ai bien compris. Alors, donc, ce que vous dites, c'est que vous sentez que les limitations de la croissance de l'Internet est à cause qu'il y avait une limitation sur le nombre des IP adresses qui étaient donc disponibles. Donc, maintenant, depuis que j'ai mentionné les IPv6, est-ce que cela va, d'une façon ou d'une autre, changer la disponibilité de l'Internet au niveau du monde? Et si cela va changer le coût qui y est associé? Si cela influence d'une manière ou d'une autre au niveau des coûts, de coûts pour tout l'utilisateur final. Oui, de la perspective du coût de l'utilisateur final. Oui, il y aura probablement des équipements que les utilisateurs ont aujourd'hui qui ne pourront pas soutenir les adresses IPv6. Mais si vous voyez autour de la salle, tous ces ordinateurs déjà supportent les IPv4 et les IPv6. La plupart d'entre vous ont déjà des téléphones portables qui soutiennent IPv4 et IPv6. Cependant, si vous avez un routeur à la maison, un petit routeur que nous met dans nos maisons, chez nous, ou peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes le font, beaucoup de ces routeurs ne supporteront que les IPv4, ne soutiendront que les IPv4. Donc, il y aura plusieurs parties du système qui devront supporter les 4 et les 6, mais la plupart des réseaux, des fournisseurs de réseaux ont déjà amélioré l'équipement, les transporteurs aussi, pour pouvoir soutenir les deux IPV. Donc, ce coût ne devrait pas arriver vis-à-vis à l'utilisateur final. Les fournisseurs ont déjà investi là-dessus. Les téléphones mobiles ou les espaces mobiles ont encore une variété de capacités. Donc, il y a des coûts qui sont associés là, qui vont peut-être nous revenir en tant qu'utilisateurs finaux, parce que nous utilisons des téléphones portables, ils vont bien devoir retrouver leur coût quelque part, mais des autres coûts qui pourraient être associés pour l'utilisateur final, c'est, comme j'ai dit, les routeurs qu'on a à la maison. Si vous avez un vieux ordinateur, vous devriez donc l'améliorer ou changer, mais le coût ne devrait pas être tellement différent, il devrait y avoir moins d'impact au niveau de l'utilisateur final, au niveau du coût. À mon opinion, peut-être quelqu'un dans cette salle a une autre approche. Merci.
Sintra,
et ensuite Eduardo. Et voilà l'ordre de parole. Merci, Rosé. J'ai deux questions. La première, c'est qu'en rapport avec vos reprendre les IPv4 qui ont été inutilisés dans votre pool, les adresses IPv4 ont été traitées dernièrement et leur value monétaire ont été mis en attente. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour prévenir cela, s'il y a une solution, si vous avez fait quelque chose? La deuxième question, c'est en rapport votre dernière déclaration que beaucoup de compagnies ont déjà introduit le double stack IPv4, IPv6, mais il y a beaucoup d'autres compagnies qui n'ont pas fait. Donc, quelles sont les politiques qui sont en place pour nous assurer que le double stack sont là? Est-ce qu'il y a des incentives ou ces incentives pour ne pas faire du double stacking ont été mises en place, si cela a été fait? Donc, il y a deux questions. Je me rappelle de la dernière, donc je vais vous répondre à la deuxième. Quels sont les incentives ou les mauvais incentives ou les désavantages pour le double stack d'avoir IPv4 et IPv6 sur votre équipement? C'est ça, n'est-ce pas? Bon, les compagnies qui ne l'ont pas fait, le double stack, est-ce qu'il y a des désavantages? Est-ce qu'on va les pénaliser pour ne pas avoir fait le double stacking? Merci, excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a des avantages qui ont été mis en place formellement pour ces compagnies, mais dans plusieurs pays, il y a des incentives, des avantages pour mettre par exemple au Japon sur votre équipement, parce qu'au Japon, par exemple, il y avait un programme national et on ne pouvait pas vendre sur certains marchés, on ne pouvait pas vendre votre équipement si vous n'aviez pas déjà l'IPv6 sur votre équipement. Le gouvernement américain avait déjà fait cela. Vous devez avoir des équipements IPv6 à moins de pouvoir vendre au gouvernement américain. Je sais que nous avons fait notre réunion au Sénégal. Il venait juste de sortir un programme où le gouvernement encourageait les compagnies à installer les IPv6 et il y avait des encouragements dans cette direction. Le découragement, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous insérer dans certains marchés dans votre pays, peut-être cela basé sur les lois nationales, bien sûr. L'autre côté, c'est que c'est un peu comme, il y avait toujours un grand marché pour les buggy whips, pour les charrettes. Maintenant, les gens ne veulent plus les charrettes, ils veulent les voitures. Donc, vous allez peut-être vous retrouver en dehors de ce marché vous allez être désavantagé au niveau de votre compagnie ici parce qu'il y aura encore très peu d'IPv4. Donc, quand votre compagnie ne pourrait pas vendre à quelqu'un qui, comme vous, tout ce que vous pouvez vendre, c'est une pièce d'équipement qui est seulement capable d'utiliser IPv4. Vous allez être à un désavantage. Je ne sais pas si cela a répondu à votre question. Si vous voulez bien répondre, répétez votre première question. Un mécanisme pour éviter la monopolisation des adresses IPv4. À Cannes ou à Yana, on n'a pas de politique en place pour promouvoir ou pour interdire cela. Cependant, les registres Internet régionaux ou les politiques sont faits au niveau régional pour les adresses IP, parce que c'est là où que les allocations sont faites, c'est là où les adresses sont allouées aux compagnies ou aux utilisateurs finaux. Ils ont mis en place des politiques dans chaque région individuelle. Par exemple, FNIC l'a fait. Ils ont mis des politiques comment faire face au transfert IPv4 et Epinic et en Iran et Afrinic aussi ont des politiques qui sont similaires à cela. Elles ne sont pas exactement les mêmes dans chaque région, mais ces politiques sont là pour encourager le transfert qui ne sont pas forcément monétaires. Mais je ne sais pas s'il y a des façons de faire la police sur le marché noir, si on peut appeler ça comme ça. Mais peut-être vous avez plus d'informations que j'en ai moi-même. Les politiques partent des registres régionaux comme l'ACNIC, AFRANIC et ainsi de suite, et APNEC et ERN. Et Eduardo, la dernière question, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Oh, j'ai une question rapide. Je suis curieux de voir quel était le procès que ces deux gens qui avaient été bénévoles et pourquoi on leur a fait un procès. Je répète la question le procès qui a été fait au niveau des fuseaux horaires, des bases de données des fuseaux horaires. Il y avait une compagnie qui publie un livre. C'est un livre sur l'astrologie et ils avaient acheté les droits pour une autre table qui avait des, des informations pour temps et date pour construire une table astrologie. Donc, ils pensaient qu'ils avaient donc les copyrights sur ces données. Je me souviens plus si c'était 1921 ou quelque chose comme ça. Et donc, ils faisaient un procès parce qu'ils disaient que c'était les bases de données utilisaient leur marque déposée de façon incorrecte. Donc ensuite, ils ont donc retiré leur procès. Depuis, puisqu'il n'y a plus de questions, je voulais remercier beaucoup pour votre attention. Hop. Fatima, une question très, très rapide. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci, Rosé. En espagnol. La question sera rapide. Je ne sais pas si la réponse le sera. À propos de la renouvellement du contrat de Yana et les requêtes qui ont été exigées pour... Excusez-moi. J'espère, je voulais pas que cette question arrive. J'espérais l'éviter. À la base, je pense qu'il y a trois choses que je puisse vous dire. La plupart de ces choses, vous les connaissez déjà. À la base, vous savez que le département de commerce a retiré le RFP qu'il avait mis en place, qu'il avait publié. Le département de commerce nous a donné l'extension de 6 mois jusqu'au 30 septembre de 2012. Parce que nous sommes donc d'accord mutuellement, nous avons accepté ça mutuellement. Ils nous ont offert l'opportunité d'avoir un debriefing. Autre que ça, il n'y a pas d'autres informations que j'ai à partager. Je sais que vous êtes aussi curieux que moi. Merci. Merci beaucoup, Elise. Je vais donc présenter le prochain sujet que nous avons. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. L'équipe de travail de Ruiz et ce représentant de l'at-large. Merci. Encore, je m'excuse, je ne parle pas l'espagnol non plus. Je sais que ce serait plus facile quand vous pouvez écouter les présentations dans votre langue native, mais je vais essayer de parler doucement et clairement. On m'a amené dans l'équipe de révision WIS au milieu du terme. Mes prédécesseurs n'étaient pas pu continuer son travail, donc j'ai rejoint l'équipe en septembre 2011. Et cette équipe de révision WIS avait déjà complété certains de son travail et j'ai pas été capable de participer à la partie la plus amusante du travail de l'équipe. Il y avait beaucoup de travail qui avait été fait. Nous avons publié un rapport ébauche, décembre dernier. Prochaine diapo. Donc, notre ébauche a été publiée donc le 5 décembre et c'est donc disponible pour les commentaires jusqu'au 18 mars. Donc, d'ici la fin de cette réunion, dans plusieurs jours après, donc c'est approximativement 100 pages plus quelques appendices détaillés. Je pense que c'est une lecture facile et claire, mais c'est un gros volume. Et l'équipe de révision espère avoir un rapport final d'ici la fin du mois prochain. La raison pour l'équipe de révision, il y avait donc un accord contractuel signé entre le département du commerce et ICANN. Donc c'était une affirmation d'engagement qui incluait les exigences pour une équipe de révision. Une équipe de révision, c'était donc pour la transparence et elle a complété son travail. Notre équipe de révision de WIS est la deuxième équipe qui a été formée et sera la deuxième à finir son travail. Il en aura deux autres équipes. Par rapport à cette équipe de révision de WIS, le mandat était que nous devons nous réunir une année après l'affirmation d'engagement, ce que nous avons fait. Cette équipe doit se retrouver refaite tous les trois ans. Nous étions donc la première d'une série d'équipes de révision. On va passer à la prochaine diapo. On dirait la première diapo. On va aller vite nos résultats. Le mandat était que nous devions évaluer comment les politiques WIS de ICANN étaient promues, si c'était exact, si ça promouvait les lois des forces de l'ordre et la confiance du consommateur vis-à-vis des règles et règlements. Nous avons trouvé 8. Nous avons plusieurs résultats et plusieurs recommandations. La première chose que nous avons vue, c'est que nous ne pouvions pas trouver des politiques claires. Who is? Les engagements d'engagement référaient à des politiques, mais nous n'en avons pas trouvé à aucun endroit. Donc, la première recommandation, c'est qu'il devrait y avoir un endroit il pourrait y avoir une politique claire de WIS où nous pourrons donc qui pourrait nous guider. Nous avons trouvé l'évidence des politiques de WIS dans le RAA. Il y avait des provisions spécifiques dans ce document avec des références sur les politiques WIS. Il y a le consensus des politiques consensus GNSO. Il y a d'autres évidences, mais elles sont à droite, à gauche, elles sont pas faciles de trouver où sont les politiques WIS. Elles sont dans des endroits différents et ce ne sert pas l'intérêt de ICANN. Ce n'est pas dans l'intérêt de ICANN. Deuxième chose que nous avons trouvée, c'est que nous avons posé la question si ces politiques qu'on appelle le WDRP, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fait ce que ça devrait faire? Est-ce que ça devrait être révisé ou peut-être même enlevé, ôté? Il y avait beaucoup d'évidence au fait, le WDRP, c'est le résultat des politiques en consensus GNSO et ça demande que les registraires envoient des emails annuels aux registrants en leur demandant de vérifier leurs données who is. Il y a beaucoup d'évidence anecdote. Les registrants n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils ne reçoivent des emails, ils ne les regardent pas, ils ne les vérifient pas, ils ne leur font pas confiance. Ils ne vérifient pas donc les dates, les données who is.
Oh, there's no metric.
Il n'y a donc pas de métrique, il n'y a pas d'étude qui démontre que le WDRP est efficace pour ce que ça doit faire. Donc la recommandation, est-ce que nous devrions revisiter, nous devrions regarder si cela fait ce que cela doit faire et de voir s'il y a une meilleure façon d'accomplir cela avec de meilleure exactitude, d'une façon plus exacte. La troisième trouvaille, c'est que WIS doit être une priorité stratégique pour ICANN. Les informations que nous avons trouvées durant notre enquête, les informations que nous avons obtenues, on dirait vraiment que ICANN ne fait pas de WIS une priorité importante. Ça devrait l'être. Là, beaucoup d'entre nous dans ICANN et dans ce groupe sont d'accord que ça devrait être une priorité importante. Nous avons vu que ICANN n'allouait pas assez de ressources, conformité, ne donnait pas assez de ressources. Il n'y avait pas assez d'attention mis là-dessus. Donc, on avait besoin de ressources additionnelles, mais aussi que un représentant senior de ICANN devrait avoir le rôle ou devrait être mis en position, devrait avoir la responsabilité de WIS maintenant. Et la responsabilité pour WIS est dispersée entre un nombre de personnes. Il n'y a pas d'officiel qui s'en occupe. qui soient vraiment responsables. Donc, cette recommandation que nous avons, c'est de WHOIS doit être une priorité plus importante et d'autres ressources doivent être allouées à cela, à WHOIS. Et un exécutif de haut niveau doit avoir la responsabilité de WHOIS.
Nous avons découvert que WHOIS doit être pour l'ensemble des cultures, question pour l'ensemble des communautés, des cultures. Il ne suffit pas que le GNSO soit le groupe constitutif étudiant cette étude. Question, il faut inclure les perspectives des forces de maintien de l'ordre. Et les consommateurs doivent connaître l'existence de WHOIS et sa disponibilité. Une des choses que, lorsque nous avons demandé l'étude sur les consommateurs de 7 ou 8 différents pays, et le résultat de cette étude était que une grande majorité d'utilisateurs Internet, y compris ceux qui possédaient des noms de domaine, ne savaient pas ce qu'était WHOIS et des données dont l'inscription était disponible au public et ne pouvaient pas utiliser WHOIS. Bien que les forces de maintien de l'ordre et la plupart d'entre nous ici, nous connaissons WHOIS et nous savons comment l'utiliser, la plupart des utilisateurs Internet ne le savent pas. Je crois que j'ai raté quelque chose. Ou peut-être pas. Voilà. Donc, le prochain domaine de recherche, c'est la précision des données et la capacité de contacter les gens. Les études ont été menées au cours des dernières années, y compris ce qu'on appelle une étude ORC, ont montré que jusqu'à 20% des registrants n'étaient pas contactables au moyen des données WHOIS. Donc, un grand pourcentage de données WHOIS ne sont pas correctes ou non authentiques. Et cela ne comprend pas les dossiers, les enregistrements de procuration et autres. Donc, le groupe a vu que tout le monde a pensé que c'était un pourcentage inacceptable de données non authentiques. Cela empêche les activités des forces de maintien de l'ordre et cela viole les droits juridiques, par exemple les droits de propriété intellectuelle. Et WHOIS doit être. Les données doivent être améliorées et nous utilisons des étalons pour fixer les améliorations à projeter et nous avons la commission d'arbitrage a dit qu'il faudrait avoir 50% dans les 12 mois et 50% dans les 12 mois suivants. Nous avons entendu que dans la communauté, les gens pensent que cela ne suffit pas, mais on a pensé que ce serait une quantité appropriée pour un début et nous recommandons également qu'il y ait davantage d'enquêtes pour montrer si la cuité s'est améliorée et il faudrait qu'il y ait une consistance dans les l'enquête est toute. C'est difficile de comparer d'une enquête à l'autre parce que les données sont variées, mais nous recommandons par la suite qu'un rapport on devrait pouvoir mesurer les résultats et que ce que nous mesurons soit significatif. Et en passant, les données incorrectes vont peut-être des données qui sont farfelues, par exemple, qui ne mettent A que dans le champ. Et des fois, il y a des contradictions. Et des fois, les données sont les résultats de translittération d'informations internationalisées. Donc, toutes les données incorrectes ne sont pas intentionnelles. Certaines le sont le résultat d'autres processus. Un grand domaine dans la correction des données est la sphère privée et les services par procuration. L'industrie a laissé le besoin de confidentialité de services de procuration et les données. Il y a beaucoup de discussions et de débats dans ce domaine. Nous estimons qu'il y a de véritables intérêts pour sauvegarder la confidentialité. Il y a des pays avec des législations, avec des protégeant des bases de données, et ICANN doit être sensible aux lois sur la protection des données privées. Par les différents registraires et registrants. Nous avons fait toute une série de recommandations sur la manière de réguler la sphère privée et les services de procuration. Nous avons fait un rapport de version préliminaire. Nous traitons ces deux domaines différents. La sphère privée, c'est dans le cas où le dossier WHOIS a le vrai nom de la personne, mais leurs informations de contact sont obscures. Les services de procuration, c'est le nom de registre n'est pas le nom du bénéficiaire, mais du service de procuration et l'utilisation légitime de procuration. C'est lorsqu'une entreprise sort une nouvelle film, veut enregistrer le nom du film, mais ce serait négatif économiquement que les gens découvrent le rapport entre le nom du film et le producteur avant la commercialisation du film. Donc, c'est pour préserver la commercialisation. Donc, on a traité séparément ces deux sphères. On pensait qu'il adressait différents besoins de la communauté. Beaucoup ont suggéré que le service de confidentialité devrait être limité à des individus et non disponible aux usagers commerciaux. Mais en fin de compte, dans les commentaires que nous obtenons, nous voyons que la communauté ne traitait pas différemment ces deux sphères, qui les traitait de manière similaire. Donc, je pense que notre rapport révisé va également les traiter séparément. Également, les traiter de manière similaire, excusez-moi. Donc, passons aux recommandations pour les services de procuration et de sphère privée. Voici un échantillon de recommandations pour les services de sphère privée. On s'attend à ce que le rapport final va traiter de sphères similairement, mais ce que vous avez dans le rapport final, c'est que nous recommandons que les proxy et les sphères privées soient régulées et les données WHOIS doivent avoir toutes les informations de contact pour les services, mais pas forcément le véritable nom du registrant. Les services proxy et de confidentialité s'assurent que la qualité des informations pour les registrants. Ils doivent auditer, vérifier et la vérifier de temps à autre. Il doit y avoir un processus de relais et de divulgation. Et il faut pour que les forces de maintien de l'ordre, les organisations de maintien de l'ordre puissent obtenir ces informations. Il faut qu'un point de contact, et j'imagine que 24 heures sur 7 jours sur 7 pour répondre aux requêtes légitimes de demande du registrant. Et je pense que nous allons recommander que ces exigences, ces protections puissent être appliquées à travers un amendement du RAA. Donc, maintenant, à la résultat numéro 10, ce que j'ai parlé dans l'étude sur les consommateurs, la plupart des consommateurs ne connaissaient pas Whois, et ceux qui étaient conscients de l'existence avaient une difficulté à l'utiliser. Deux des plus grands registres, .com et .net, je pense, ont très Whois thin, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir toutes les données sur le registre en allant au registre. Il faut regarder d'abord le registraire. Il y en a des centaines de registraires dans l'espace de nom de domaine .com et .net. Souvent, c'est très difficile de trouver le bon registraire qui dispose de toutes les données thick Whois, les données thin Whois thin. Parfois, ne sont pas utiles, parfois seulement le nom ou les informations sur le registraire. Dans notre enquête de consommateurs, la plupart des consommateurs ne connaissaient pas Whois. Lorsqu'on leur a dit ce qu'était Whois, on leur a dit de chercher les données de registre à travers Whois. Beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi. Et nous, quelque chose que vous savez tous, les données Whois, les pages peuvent être très en erreur. Il y a beaucoup de textes qui ne sont pas utiles parfois. Il y a des publicités qui surgissent. Donc, nous avons trouvé une recommandation pour solutionner ce problème. La recommandation est que ICANN devrait élaborer une interface centrale qui pourrait mettre à disposition toutes les informations GTLD. On doit être clair parce que les commentaires qu'on a eus sur ces recommandations ont montré qu'il y avait une mauvaise compréhension. On ne suppose pas que les données soient modifiées, déplacées. On ne suggère pas que ICANN garde les données Whois. Cela serait difficile pour personnellement, et cela peut-être une violation des libre circulation des données. Il y a une interface qui s'est créée qui permettrait de cliquer vers la page web qui possède les données dans un modèle épais. Thin, il y a beaucoup de registres qui ont les données. Donc, au lieu d'essayer de deviner d'où c'est, cette interface vous amènerait directement à l'endroit et on pense que c'est faisable. Il y a des discussions pour savoir si c'était réaliste techniquement. Jusqu'à présent, je pense que la conclusion est que ça l'est et ce ne serait pas difficile. Cela aiderait beaucoup les professionnels tels que les organisations de maintien de l'ordre et les consommateurs à trouver les informations pertinentes rapidement. Les dernières recommandations sur l'IDN, on réalise que le protocole actuel n'adresse pas le problème de l'IDN. Toutes les informations disponibles dans ASCII sont des informations qui ASCII sont dans des scripts étrangers. Il doit y avoir une translittération et parfois la translittération peut être faite différente. Donc, on a différentes données, des données ASCII en fonction de qui fait les translittérations. Donc, on a fait plusieurs recommandations pour améliorer ce problème. Il y a des défis techniques. Il y a des discussions dans ESSAC 051 discutées lors de cette réunion pour remplacer le protocole Whois qui pourrait faciliter le caractère recherchable des IDN pour l'adressage étranger. Donc, cela conclut nos recommandations. J'en ai vu quelques-unes très rapidement. Je crois que je les ai toutes mentionnées jusqu'à un certain degré. Il y a encore du temps pour avoir des commentaires. Alec a une page web Whois et Alec a avancé des commentaires par le biais de cette page web, mais pas encore de commentaires formels à l'équipe de révision Whois sur leur page web. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez commenter avant le 18 et on va essayer de répondre à tous vos commentaires. Merci. Et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci.
Merci beaucoup. Nous allons avoir nous allons demander à l'audience s'il y a des questions. Merci. José, j'ai deux questions. La première, c'est si je sais bien, Alak n'a pas encore voté sur les commentaires. Leurs commentaires sur Ouiz qui doivent être passés vers vous. Samuel a été en contact avec vous là-dessus. Est-ce que vous pourriez recommander qu'il soit le point de contact pour la Colo sur les requêtes? S'il y a quelqu'un d'autre, je pense que Carlton et moi sommes les points de contact. Lutz est aussi un membre de l'équipe de révision. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour cette réunion, mais nous trois, nous serions des bons points de contact pour les questions ou pour si vous voulez juste partager vos commentaires de façon privée avec nous. Je pense que nous pourrions rapporter ces commentaires au groupe. Il y a une page commentaire. C'est là sur l'écran. Est-ce que c'est sur l'écran? C'est sur mon écran. Si vous allez sur la page où il y a le rapport des Bosch, vous pourrez faire vos commentaires directement là. Carlton a fait des commentaires très tôt, je les ai, mais ils n'ont pas été publiés sur cette page parce que At Large a sa propre page Whiz et c'était donc publié là. Donc je vais apporter j'ai déjà apporté ces commentaires à l'attention de l'équipe et je vais m'assurer qu'ils soient considérés. C'est en deuxième, il y a aussi une équipe pour faire une ébauche d'une révision de Whois. Est-ce qu'il y a une équipe, un sondage de révision de Whois? Une équipe de sondage de révision de Whois. Je voulais savoir quelle est la relation entre cette équipe, ce travail de cette équipe avec votre rapport. Pas un ALAC. Je crois que ce dont j'ai discuté, peut-être je suis confus, je suis désolée. Je parle du rapport d'ébauche de l'équipe de révision Whois. Et cette équipe est sortie de l'affirmation d'engagement. Je ne suis pas au courant d'une autre équipe de révision. C'est une équipe de révision de sondage Whois. Il y a donc un sondage qui doit sortir, qui doit être publié. Écoutez, je ne suis pas sûre. Je sais qu'il y a un nombre de
surveys going on right now. The GNSO has commissioned a number. The first one is going to be released in about a month. They deal with accuracy. They deal with what's going on with Whois privacy and proxy. So there may be a survey drafted, but this is not at large. It's outside of at large. I'm sorry, I don't know, but I can try to find out for you.
Je suis désolée de ne pas savoir, mais je peux trouver l'information pour vous si vous voulez. La dernière question de Marcelo. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a une relation entre la sécurité entre les pays différents pour l'équipe de Whois, si c'est le cas, est-ce que c'est en relation avec le cybercrime? Alors, la question, est-ce qu'il y a une relation entre les forces de l'ordre et le Whois? Et de l'équipe de révision de Whois. Est-ce que c'est correct? C'est ça que vous voulez savoir? Notre équipe de révision a des membres de les forces de l'ordre dans l'équipe même. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée. Notre équipe est constituée de membres variés de différents corps constitutifs, comme du côté business, at large, GAC, avait des gens-ci. Il y avait des experts indépendants qui venaient des forces de l'ordre. et aussi des IT, des IT. Nous avons des représentants de l'unité cybercrime anglais qui ont été instrumentales. La personne n'est pas là à cette réunion. Nous avons en fait avons eu des informations de la part des forces de l'ordre. Mais en dehors de ça, je peux vous dire que les forces de l'ordre nous donnent des informations sur les amendements RAA pour ce groupe de travail. Donc, je sais qu'il y avait des recommandations faites pour les amendements de RAA qui pourront peut-être inclure des amendements sur les exigences de WHOIS. Outre cela, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. S'il y a des recommandations pour qu'il y ait des exécutifs de haut niveau qui soient responsables pour WHOIS dans ICANN, peut-être que cette personne serait disponible pour vous donner des informations de la part qui viendrait des forces de l'ordre. Est-ce que ce serait peut-être une bonne idée? Est-ce que ça répond à votre question? En attendant que nous passons au prochain thème, je voudrais faire une réponse à Johnny rapidement. Johnny, pour une question. Cette position me paraît très intéressante. Je voudrais avoir, s'il y avait l'opportunité de pouvoir obtenir ce que je vais indiquer plus ou moins. Les registres finaux, les relations avec les plus grands fournisseurs, ce qu'ils reçoivent dans cette transaction. Je veux dire, est-ce qu'ils reçoivent moins de la moitié d'un dollar 30 cents pour chaque point com domaine qui sont enregistrés? Et ces vendeurs de point com, de domaine point com, devraient avoir ou ont une très peu d'encouragement d'enregistrer des données. Peut-être que ces registres finaux qui existent à travers le monde, ils sont des milliers, ce qui pourrait actuellement transférer les ventes à de plus larges, de registres plus importants à travers le monde. Il devrait peut-être y avoir une régulation de ce côté de la revente, parce que c'est des résolutions ne sont prennent pas les données. Si la relation est claire, il y aurait peut-être de meilleures possibilités d'avoir plus de données qui rentreraient. S'il y avait une interface qui pourrait être utilisée pour formaliser la relation entre les revendeurs, peut-être qu'il y aurait des meilleures données de WHOIS. Est-ce que je peux dire quelque chose à le sujet du respect? Je pense que nous avons entendu les commentaires. Et c'est pour ça que les données sont pauvres. C'est parce qu'il n'y a pas d'encouragement financier pour que les registraires fassent des audits pour améliorer les données. C'est pour ça que nous avons donc entendu beaucoup de la part des registraires. Je sais qu'ils prennent les données WHOIS très sérieusement. Je pense qu'une avenue où nous pourrions améliorer l'exactitude des données, où il n'y a peu de... Les registres font peu pour assurer l'exactitude. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau du RAA pour faire respecter les provisions du RAA. Il n'y a pas assez de pénalités donc pour les registraires qui ne prennent pas les responsabilités des données à WHOIS. Donc, laissez-moi savoir si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, notre prochain speaker, c'est Nestor et le directeur de MECO Mexique. Merci, Ernesto, d'être ici. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci, Francisco. Merci de m'avoir invité. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous nos idées des DNS, Internet. Je voudrais parler spécifiquement du Mexique et ensuite je parlerai de l'Amérique latine et des Caraïbes brièvement. Alors, en premier, nous allons parler du contexte du marché, des enregistrements, la responsabilité des registres TLD, les règlements qui s'appliquent aux admissions et les challenges des SLD. Quelques-uns des challenges des STLD. Oh, where is the floor? I can't get the floor. Attends. On va parler du contexte du marché. C'est la pénétration Internet en Amérique du Sud, en Amérique latine, comme vous voyez, que la pénétration la plus grande dans l'Amérique latine, c'est au Chili. Il y a donc 58%. Mais en général, la pénétration est basse. Elle ne peut pas être comparée avec la pénétration dans les marchés les plus développés. Cela explique plusieurs choses. En général, la pénétration globale de l'Amérique latine est 37%. Internet. Nous avons 200 millions d'utilisateurs d'Internet. Donc, nous allons peut-être voir plus de marchés qui peuvent être générés dans le futur, dans l'avenir. Donc, la base de croissance pourrait donc être plus rapide. Cela montre beaucoup de possibilités pour prendre meilleur avantage de l'Internet. En rapport avec le marché de domaine en Amérique latine, nous avons dans ces régions 9% approximativement de la population. Il n'y a pas de registraire. Il n'y a pas de registre de GTLD dans cette région et ils sont tous hors de cette région. Nous avons moins de 1,5% de domaines génériques, 1,5 million et entre 1,5 million et 150 millions. Donc moins de très peu de registraires qui sont accrédités par ICANN. Il y en a 900 000 à travers le monde, donc cela montre qu'il y a des choses à améliorer. En rapport avec la termination des territoires, il y a 8% des registres, des domaines enregistrés, plus de 6 millions, un total de 80 millions, 2% du marché secondaire. En rapport avec les data CEDO, au Mexique, nous avons 1 million. Moins de 70% d'entre eux ont une page web. Voilà. Le processus d'admission ou d'enregistrement. En rapport à ce processus, il y a trois entités principales qui font partie donc de ce processus. Vous allez voir la première, les registrants. J'ai écrit la version anglaise. Si vous voulez, nous travaillons avec cela, il n'y a pas de problème.
Rapide, sinon.
Voyons voir si nous pouvons résoudre le problème rapidement, sinon. Nous allons résoudre ça d'une autre manière.
Okay. Bueno, sí. Sí, si quieres dejarlo con esa, si quieres, con la, mientras no se pierda otra. ¿Sí puede regresarse al que tenía?
Sí.
Ok, ya parcial. Next. Next. Ahí son. It's okay. Bueno, parece que...
Je crois que maintenant, tout cela est affiché sur l'écran. Il y a trois entités qui participent à l'enregistrement. D'abord, ceux qui veulent enregistrer leur nom donc sur le site web. Et avec un revendeur ou un registre accrédité de CCTLD. Et la, c'est la seconde entité qui participe et finalement. Il y a le registre qui opère le registre de CCTLD. Donc, ce sont les trois entités qui participent. Dans le cas particulier du Mexique, les registres sont accrédités par les CCTLD, pas forcément des ICANN, pour vendre les points MX. Et ce sont des registres accrédités et ils travaillent avec le registre point MX. Donc, cela, à l'addition du modèle de consultation, vous pouvez voir ici comment la première partie est celle du registrant qui cherche le domaine, ensuite le registraire et finalement le registre. Lorsque l'enregistrement est terminé, les informations vont au registraire de DNS qui sont en haut à droite, et cela est répliqué, une copie des serveurs DNS que maintient le registre à travers le monde. Et finalement, lorsque un d'entre nous cherche des informations se rapportant à ce nom de domaine, cette requête va dans l'Internet et arrive à ce serveur DNS et trouve l'information qui avant était enregistrée. Bien. Cela se passe normalement, mais il y a une grande responsabilité et il y a des exigences importantes par rapport à la grande responsabilité d'un CCTLD. On peut définir les politiques qui vont régir le registre de DNS et la mise en œuvre de mécanismes de solution, de résolution de disputes et la gestion des bases de données et du DNS et la commercialisation des noms de domaine. Ce sont les activités principales d'un registre. Bien. D'une certaine forme, ces responsabilités se traduisent de la manière à ce que le CCTLD ait la responsabilité, l'obligation de s'occuper à la fois de la communauté locale où il est situé dans son territoire et également la communauté internationale, surtout au moment des requêtes ou bien d'accepter des registres hors de son territoire. Il doit également s'occuper de la communauté globale. Il doit offrir un service fiable. Donc, question, il faut une infrastructure fiable et la partie technologique et d'opération et des politiques. Il faut que ce système fonctionne. Et ça va être la qualité de tous les stakeholders de ce registre. Et la seconde chose Il faut s'assurer que les ressources soient suffisantes pour maintenir la qualité de ces services et que ce soit durable afin que la technologie, infrastructure et l'infrastructure opérationnelle soient robustes et permettent d'assurer ce niveau de service de manière constante et sans panne de préférence. Il y a un thème intéressant dans l'administration des noms qui est quelle est l'économie d'échelle auquel ils ont accès. Et parfois, il y a beaucoup de différences entre les économies d'échelle qui peuvent être réalisées en fonction des caractéristiques de l'opération. Et c'est ce qui nous amène à avoir sur des prix différenciés, qu'il y ait pour un CCTLD, un autre prix pour un autre CCTLD, un autre prix pour des noms génériques, n'est-ce pas? Parmi les règles de registre, combien de noms peuvent être enregistrés? La plupart des CCTLD n'ont pas de limite. Certains, pour le moment, ils avaient, mais ils l'ont éliminé au fur et à mesure. Dans le cas de l'Argentine, un exemple dans la région, ils ont une limite de 200 noms pour éviter des abus. Pour enregistrer un nombre quelconque de noms, en majorité, ils peuvent être enregistré pendant un an et renouvelé pendant un an. ICANN a des périodes supérieures, enregistre pendant deux ans, etc. La majorité, nous donnons une limite de couverture pendant lequel, pour nous, c'est 5 ans d'enregistrement de domaine et certains d'autres cas, c'est 10 ans. Quel terme ou chaîne de caractères peuvent être enregistrés? La libération continue, mais on peut enregistrer n'importe quel nombre et on peut utiliser des lettres, des chiffres et l'alphabet latin et des lettres, des numéros et le tiret. À quel niveau? Il peut y avoir parfois des limitations techniques ou pour éviter des problèmes de contenu ou des choses qui se rapportent à cela, à des problèmes. À quel niveau des chaînes on peut enregistrer les noms de domaine? En général, sous .xx.gov.xx et cctld, .com.mx et .co, tous les cctld au début, ils ont répliqué les extensions des domaines génériques et les mettre sous leur CCTLD. Dans notre région, cela change. Il y a eu des cas dans lesquels on a libéré le registre, on a diffusé le CCTLD directement sous le nom générique. C'est le cas du Mexique. Pour le Chili, par exemple, ils peuvent faire l'enregistrement directement sous le CCTLD. D'autres règles, il y a ce qui limite le registre en région de l'origine du registrant. Il y a certains qui demandent un identificateur ou un document identifiant dans leur pays. Par exemple, au Mexique, c'est le registre des causantes qui est lié à la contribution des impôts. Et pour le Chili, la même chose. Il y avait d'autres qui n'ont pas de restrictions, sans aucune restriction. N'importe qui peut enregistrer un nom de domaine pour la raison. Quelle relation avec le nom de domaine des détenteurs de droits des marques commerciales et des possesseurs d'autres droits sans restriction exactement? Il y a quelques limitations se rapportant là-dessus. Il y a certains qui étaient uniquement pour les enregistrements de personnes, d'entités juridiques et d'autres de personnes naturelles, d'individus, et certains n'ont aucune restriction. Donc, pour conclure, avec le temps, la majorité des CCTLD ont établi des politiques chaque fois de plus en plus libérales. On libéralise les restrictions et cela confirme qu'il n'y a pas de risque important pour le CCTLD. À chaque fois, ils éliminent les restrictions où il y a un mécanisme qui apparaît, qui puisse contrôler les choses. Ici, il y a un graphique que j'avais préparé. Et la montre comment de gauche à droite. Il y a de plus en plus de libéralisation de l'espace. L'axe horizontal montre le nom de noms qui peuvent être enregistrés de gauche jusqu'au nom de domaine avec des limites à droite. Et en haut à droite, vous pouvez voir quelque chose qui n'avait pas d'exigence particulière ou de limitation jusqu'à les avoir. Et cela nécessitait les dés sont passés donc au niveau moins restrictif et sont devenus plus de libéralisation quant au nombre, quantité de nombres, noms qu'on peut enregistrer. Le coût du registre, c'est un vraiment long, vaste sujet, très intéressant pour nous. La plupart des CCTLD opèrent des registres et des revendeurs, des registreurs et des revendeurs, et ils ont la possibilité d'offrir le prix qu'ils jugent convenable à l'usager, et ils le combinent avec d'autres services. Souvent, on le voit en paquet, en offre de webcasting avec un nom de domaine. Et cela fait que il y a différents tarifs de décompte, de rabais, etc. Pour la majorité des CCTLD de notre région, le prix moyen est de $80 américains par année. Cela inclut les services premium des CCTLD qui vont de $100 à $1000. Si nous utilisons les prix pour résidents ou les prix plus bas dans les différents CCTLD pour ceux qui ont plus d'un prix, le prix moyen est de $16 par année. Et voici les différents pays dont on a tenu compte pour le calculer la moyenne. Les réseaux actuels, les CCTLD, les lois de privatisation sont, par exemple, dans les pays de Mexique, sont les politiques de protection de la vie privée. Pour nous, cela, nous devons trouver la manière de combiner avec des services qui existent déjà, comme le service de WHIS, qui est une base de données publique, et trouver comment on peut combiner, parce que cela est déjà une pratique universelle. Et c'est tout un problème pour nous. Ce que nous essayons de voir, c'est de respecter au maximum que possible et trouver ce qui soit le plus une mise en œuvre la plus pratique pour que le registrant n'ait pas de difficultés. Un gros problème de la concurrence, c'est que maintenant, les administrateurs de domaines de noms génériques ont un modèle de commercial qui est plus commercial et plus agressif qu'auparavant. Et pour le moment, maintenant, il y aura donc davantage de CCTLD. La quantité peut varier grandement. Donc, les conditions changent pour les CCTLD et le marché en général va connaître de grands changements. Le thème de la sécurité a toujours été un problème et ne va pas cesser de l'être. Nous avons des attaques qui requièrent chaque fois davantage plus d'actualisation de cette infrastructure et en cours pour protéger davantage de clients. Donc, voilà les plus importants problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci. Je voulais être bref. J'aimerais qu'on parle un peu. Si vous avez des questions, je le ferai de mon mieux pour y répondre. Merci.
Je suis du Chili. Je voudrais savoir quel est. Vous avez une réponse au sujet des DNS. Par exemple, dans ce pays, combien de noms de domaines ils ont pour leur propre pays et quel en est le coût? Nous avons des statistiques. Par exemple, en Argentine, il n'y a pas de charge pour d'autres pays chargent un certain montant, donc ça pourrait prévenir des pays pour avoir plus de domaines de leur propre domaine. Donc nous avons des statistiques là-dessus. Certains des CCLD ont publié leurs statistiques, c'est-à-dire c'est le cas du Mexique. Je ne l'ai pas avec moi, mais il y a des statistiques. Je connais celles qui sont publiquement disponibles. Il y a des pages. Il y a deux pages où vous pouvez trouver une consolidation de la plupart de ces statistiques que vous cherchez. Si vous voulez, en partant de cette salle, je pourrais vous donner ces liens. Comme ça, vous pourriez regarder, trouver ces informations là. Par rapport à votre question, nous pourrions dire que nous pouvons nous demander si ces actions pourraient bloquer le nombre de registres qui existent déjà. Logiquement, cela pourra causer des délais, mais de l'autre côté, ce serait nécessaire pour comprendre le contexte dans lequel les registres opèrent, les registres avec peu de noms, plus de marchés avec aura de la difficulté à croître en termes de nombre de registrants. Ce n'est pas toujours possible, après un certain niveau, de réduire le prix. Donc, il y aura une espèce de combinaison entre prix de marché et taille de marché qui doit être formulée. Je vois Sergio qui lève la main, et Johnny, et ensuite Umberto. Bonjour Ernesto. Merci tout d'abord pour participer dans cette session. Je pense que votre présence est très importante de la part de mes collègues. Je voudrais vous remercier pour cela. J'ai encore quelques questions. Nous parlons des nouveaux GTLD constamment dans la CAN. Donc, je voudrais savoir quelles sont vos vues du marché Mexique par rapport à l'entrée de ces nouveaux GTLD. Quelle est votre opinion là-dessus, en général? Et surtout en particulier au Mexique, nous croyons que nous ne serons pas l'exception. Le marché verra des changements, surtout sur le total de nombre de noms enregistrés. Nous pensons pas qu'il y aura beaucoup de remplacements, mais les noms qui ont été déjà enregistrés, par exemple, seront toujours enregistrés de la même façon. Ce que nous devrons nous attendre, c'est en addition, en plus des noms qui seront rajoutés à votre portefeuille. C'est ce que nous pensons voir dans le marché. Nous espérons que avec la mise en place des nouveaux GTLD, et nous pourrons travailler ensemble avec les noms de domaines, de territoires, nous pourrons aussi aider au niveau de l'éducation, de l'information pour les utilisateurs. Ainsi, nous aurons une audience plus informée, et nous attendons maintenant un meilleur investissement dans la promotion, dans l'éducation des utilisateurs. Comment nous allons pour faire les transactions qui sont en relation avec les noms. Johnny, merci encore pour votre présentation et merci pour les deux réponses parce que cela aide à clarifier quelques idées et questions que j'avais déjà. Quels sont les critères? Est-ce que vous avez des revendeurs aussi? Nous avons des registraires qui sont accrédités. Donc, ce serait des revendeurs? Non, vous pourriez peut-être clarifier cela. J'assume qu'il devrait y avoir une relation économique. Cela va main dans la main avec la question que j'avais à propos de l'orateur précédent. Une politique qui pourrait changer les données des WHOIS. Une autre question, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Cela a à voir avec les applications des RFC 15. cela à voir avec l'inspiration au sein de la communauté, des gouvernements qui participent dans ces questions de domaine, de façon à faciliter l'accès et la promotion de l'Internet dans tous les pays. Ce que je dis cela parce que c'est qu'on a comme une responsabilité que les administrateurs devraient avoir au niveau que les domaines, les noms de domaine ont dans les pays et comme Néco Mexique. Je suis sous la, j'ai l'impression que c'est la société civile qui représente l'intérêt de l'Internet, des utilisateurs d'Internet et les utilisateurs de domaines dépend de la décision des gouvernements et les administrateurs des registres dans les pays comme NIC au Mexique. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos vues, vos opinions sur l'association de l'Internet, des utilisateurs d'Internet aux États-Unis, au Mexique? Comment est-ce que les utilisateurs pourraient être plus engagés dans la formation des politiques au Mexique? Pour répondre à votre première question, quand il s'agit des critères pour les registraires et les revendeurs, je vous dis que nous avons des registraires qui sont accrédités. Il y a différence que nous faisons. Les registraires accrédités pour nous, ce sont les entités qui ont une relation directe avec nous et qui sont identifiées complètement. En tant que registraires, ils ont un contrat avec nous. Ils suivent les politiques que nous avons. Les revendeurs, pour nous, n'a pas de relation directe avec nous et de relation de business avec nous. Mais ils participent dans la distribution de la chaîne de noms de distribution. Ce sont pour nous des revendeurs. C'est là la situation dans mon pays. Je pense que vous avez posé la question qui concerne pour plus de politique ou peut-être plus de contrôle à travers la chaîne. Les registres accrédités, nous attendons à ce qu'il y ait les mêmes choses, les relations avec eux, ce qu'on a déjà avec eux, une structure que l'on a déjà, qui définiront les revendeurs. Et comme ça, ces règles devront être suivies et respectées de façon à garantir que tous les chaînes de noms de domaine ont un certain niveau de responsabilité. C'est notre objectif, c'est ce que nous cherchons, c'est ce qui nous garde notre marché en bonne santé. Pour répondre à votre deuxième question, NIC Mexique permet l'engagement, la participation de certaines associations au niveau consultatif, spécialement les plus grandes décisions sont prises par ces comités. Nous rassemblons avec eux, nous les amenons dans les comités, nous discutons avec eux et nous avons des informations qui nous reviennent de leur part. Et ensuite, nous essayons de prendre des décisions adéquates. Nous participons aussi avec des associations qui sont en rapport avec le développement de l'Internet et nous mettons cette information dans notre système. Et ensuite, nous avons aussi des systèmes différents. Nous avons des CCTLD qui sont opérés par des organisations privées, d'autres qui sont opérés par les gouvernements ou par la communauté Internet. Tous ces acteurs de l'Internet, participants donc de l'Internet, vont pouvoir donc prendre partie dans le processus de décision. Ils peuvent au moins donner leurs opinions. Je pense que c'est à la fin rend l'administration de ces noms plus robuste. Peut-être le label de l'opérateur n'est pas si important, ou le nom du moins de cet opérateur, la participation n'est pas si important. Berto, s'il vous plaît. Bon après-midi. Votre présentation a été très intéressante. Je suis contente de voir l'évaluation de NIC Mexique. d'une perspective différente. En premier, en termes de politiques, parce que je me rappelle, il y a quelques années, vous appliquiez les politiques à Cannes. Maintenant, vous avez vos propres politiques, des politiques qui sont similaires. C'est comme ça que ça s'est passé au Chili à un certain moment. Je pense que c'est ce que le Mexique doit faire. Je vois aussi, j'admire aussi ce détail que vous avez donné quand vous parlez, quand vous travaillez avec les registraires. Quels sont les autres mécanismes que vous utilisez pour forcer la concurrence? Parce que cela baisse les prix pour les DNS et pour les DN. Quelles sont les étapes que vous allez utiliser dans le futur? Parce que vous dites que vos GTLD sont plus agressifs d'une façon commerciale. Comment est-ce que vous pouvez rendre les marchés des nouveaux CCTLD plus agressifs? Parce que si vous comparez les prix des GTLD contre les CCGTLD, vous allez voir un écart. Par exemple, dans le cas du Mexique, c'est un pays assez grand comme... Au Chili, nous avons moins de population que vous. En Mexico, la promotion a été une des activités les plus importantes que nous avons commencé. La promotion et l'éducation. La publicité et l'éducation des utilisateurs. Nous assurons que les utilisateurs connaissent les noms, cherchent les noms. Et au niveau de l'éducation, notre concentration est sur le fait que nous voulons savoir que les gens comprennent comment le système travaille, fonctionne. Je prendrai ce coup de fil plus tard. Et de l'autre côté, bon, si vous, je vais rester là. C'est pas un problème. Bon, donc comme je vous disais, en termes de publicité et de promotion, nous essayons de nous assurer qu'il y a beaucoup plus de nombre, un nombre plus important de gens soient au courant, deviennent au courant des CCTLD, parce que nous essayons d'identifier cela comme une marque, une extension de quelque chose. Nous essayons de leur donner une définition. Nous essayons de promouvoir, d'éduquer les gens là-dessus et de voir comment c'est opéré, comment c'est géré. Et nous essayons aussi de faire de la publicité sur de promouvoir les avantages des CCTLD. Si vous êtes une compagnie, quels sont les bénéfices pour vous d'avoir une présence sur Internet? Parce que c'est ça que le marché demande. Ils ne viennent pas vous voir et pour vous dire « j'ai déjà réalisé que j'ai besoin d'un nom de domaine ». Non, ce qu'ils se rendent compte immédiatement, c'est qu'ils aimeraient avoir une présence sur l'Internet de façon à atteindre un marché plus important, une façon à avoir un marché... une chaîne plus moins chère qui serait plus accessible pour la plupart des compagnies, parce que ainsi nous commençons à faire part de noms de domaine. Les coûts sont importants. Si cette décision ne comptait que sur le prix, ce serait clair que nous pourrions baisser les prix d'un petit pourcentage, mais il y a un facteur de limite. Si vous n'avez pas beaucoup de noms, si votre marché potentiel est peu important, vous allez être restreint. Le prix de votre domaine ne va pas pouvoir être baissé. Donc, vous voulez vous assurer que vous êtes viable sur le marché. Donc, pour les .com, .mx, Nous avions l'habitude de baisser le prix à $35. C'était à $70 avant. Et pour l'administration, maintenant nous en sommes à $11. Parce que nous croyons que cela aide le marché, cela aide à faire que le marché agisse. aussi on a baissé le prix pour les renouvellements à $19. Quel est notre objectif? L'enregistrement et les renouvellements des noms devraient avoir le même prix. Pourquoi est-ce qu'on a cette différence de prix? En baissant le prix, nous encourageons plus d'enregistrements. Donc, notre base de données croît et ainsi nous pourrons encore baisser les prix. Donc, de cette façon, nous pouvons garantir que nous aurons les ressources de façon à avoir une infrastructure de première classe, de classe mondiale et donner la meilleure qualité à nos clients. Par exemple, si notre structure, il y a de e-commerce, .mx et les transactions qui sont faites sur les .com.mx sur les domaines. Fatima?
Oui, bonjour. J'ai une question pour la participation à distance de Béatrice Rodriguez d'Uruguay. Elle dit comment est-ce qu'on établit que Ruiz est public et respecte la législation sur la protection des données. Comment donc le thème des bases de données WIS est une pratique universelle. Donc c'est une source publique conformément aux lois de protection de données. Donc au Mexique récemment, c'est une de nos soucis de comment pouvons-nous assurer qu'il n'y ait pas une condition au sein de la loi, la législation qui soit en violation contre le service de Ruiz. Dans ce cas, d'un côté, nous devons satisfaire aux exigences de la loi, mais d'un autre côté, il y a quelque chose de base dans l'opération de notre entreprise qui est la base de données Ruiz. Donc la pratique universelle devrait primer, ce qui nous oblige à gérer ce Ruiz. Et ce que nous pouvons faire, c'est choisir quelles sont les données qui devraient être publiées. Dans le cas du Mexique, depuis quelques années, on peut voir le nombre, mais non, le numéro de téléphone, du registrant, de son adresse, donc les données les plus sensibles, ils n'ont pas accès. Si vous arrivez à établir une dispute, il y a un nombre pour un nom, alors on va à la WIPO, on donne les informations nécessaires pour suivre le processus, mais ces données ne sont pas publiées. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bien. D'autres questions pour Ernesto? Bien. Merci beaucoup, Ernesto, pour votre participation. Et avec la présentation de Ernesto, nous allons clore la session sur le renforcement de capacité. Et merci beaucoup à tous. No te preocupes. Puede pasar.